Madame, Monsieur, bonjour. Le MAG de CFM Montauban laisse la place à Politiquement Votre avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
L'invité de Politiquement Votre aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est Pierre-Antoine Lévy, sénateur de Tarn-et-Garonne, qui nous fait l'honneur d'être ici en studio. Bonjour Pierre-Antoine Lévy.
Bonjour Kader.
Bonjour Rémi.
Bienvenue à vous sur CFM Radio.
Merci de votre invitation.
Alors, Pierre-Antoine Lévy, le Parlement a approuvé définitivement la loi sur l'immigration. L'Assemblée l'a votée avec 349 voix pour et 186 voix contre sur 573 votants. Le Sénat, dominé par la droite et le centre, avait adopté par 214 voix contre 114 le texte issu de longues et douloureuses tractations, on s'en souvient, de la commission mixte paritaire, un conclave de 7 sénateurs et 7 députés. Vous avez voté, Pierre-Antoine Lévy, cette loi immigration rédigée mardi 19 décembre. Est-ce que c'est la victoire de la droite, Pierre-Antoine Lévy ?
Non, je pense que c'est une victoire pour les Français. Les Françaises et les Français. Alors on pourrait dire que c'est une victoire de la droite sénatoriale. Moi je fais partie du groupe Union Centriste qui associé au groupe des Républicains constitue la majorité sénatoriale. Alors je voudrais vous dire peut-être que, en quelques mots, que cette loi d'abord c'est la volonté du président de la République et du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de nous la présenter. Pas nous qui avons demandé cette loi, on attendait des lois sur l'immigration. Donc c'est le président Macron et le ministre Darmanin qui nous ont sollicité il y a plus d'à peu près un an pour nous dire qu'ils étaient en train de créer une loi sur l'immigration. Cette loi, elle a été décalée, reportée, vous savez, à cause de la fameuse loi sur les retraites qui avait provoqué des tensions sociales. Il est effectivement inutile de rajouter de la tension sur la tension. Et donc, cette loi immigration est arrivée au Sénat le mois dernier, donc au mois de novembre, où durant 5 jours et 5 nuits, nous l'avons examinée.
Mais on va y revenir sur le texte et ce qui a conduit à cet accord, à ce vote à l'Assemblée. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains du Sénat, revendique une loi du Sénat et uniquement du Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de dire ?
Je vais vous dire le souci que nous avons eu, c'est que généralement quand on convoque une commission mixte paritaire, vous l'avez dit, hein, c'est une réunion de 7 députés, 7 sénateurs, c'est pour examiner 2 textes. Le texte voté par l'Assemblée et le texte voté par le Sénat. La particularité de cette loi, c'est que nous n'avions qu'un seul texte. C'est le texte voté par le Sénat au mois de novembre. Ce qui veut dire que c'est compliqué de trouver un texte de l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que les écologistes ont déposé une motion de rejet et que cette motion a été adoptée. On l'a su la semaine dernière, 270 pour l'adoption, 265 contre l'adoption. De ce fait, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le vrai problème. Parce que je trouve assez étonnant que des députés qui sont élus par le peuple aujourd'hui et qui sont là pour voter des lois, finalement, rejettent le dialogue à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est retrouvé avec cette commission mixte paritaire qu'avec le seul texte du Sénat. Et donc, la seule base de travail que nous avions, c'était le texte voté par le Sénat, sur lequel nous avions bien sûr fait des ajustements, des modifications par rapport au texte du gouvernement. Modifications pour la plupart approuvées par le ministre de l'Intérieur.
Des propositions durcies.
Et donc nous avons trouvé un accord en commission mixte paritaire pour reprendre une grande partie des propositions du Sénat, mais également pour accepter de lâcher. C'est le principe même de la négociation. C'est-à-dire que si nous avions dit c'est le texte du Sénat ou rien, on aurait très bien pu dire c'est rien du tout. Et à ce moment-là, le texte serait reparti à l'Assemblée nationale pour voir s'il y avait une possibilité de faire une deuxième lecture ou alors une autre motion de rejet, et finalement peut-être être adopté par 49-3, soit la version du gouvernement, soit la version du Sénat. Donc nous avons passé finalement des arrangements entre députés et sénateurs pour trouver un texte qui a été voté au Sénat en premier mardi à 19h et ensuite à l'Assemblée nationale à 21h30 avec une large majorité.
Est-ce que cette séquence a permis, selon vous, c'est en tout cas l'avis d'Éric Ciotti par exemple, de recoller les morceaux de la droite française, est-ce qu'elle a permis de ressouder un groupe qui s'était quelque peu étiolé ?
Peut-être à l'Assemblée nationale, oui. Puisque je rappelle quand même que la motion de rejet a été votée par une quarantaine de députés LR, alors que la loi sur l'immigration et l'intégration au Sénat a été votée par l'intégralité des sénateurs républicains. Il y a une vraie homogénéité des votes au Sénat.
De manière globale. Votre avis à vous sur la philosophie, oui. Sur le fait que la droite sort ragaillardie de cette
La droite
séquence.
Républicaine ressort ragaillardie, le centre également a joué son rôle. son rôle plein et entier aux côtés de, des Républicains au Sénat, puisque encore une fois, la seule majorité qui existe aujourd'hui dans les deux chambres, c'est celle du Sénat, donc moi je parle de celle qui existe. Mmh. Et donc nous avons trouvé finalement un accord qui a été largement voté, puisque vous savez, dans les lois aussi compliquées à voter, il peut y avoir ici et là des pertes de voix. Quasiment 100% des sénateurs républicains et quasiment 100% des sénateurs UC, Union Centriste, ont voté cette loi. Donc on peut dire qu'on a recollé les morceaux de cette droite dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une droite républicaine forte.
Justement,
et un centre fort.
Face au RN, c'est une victoire idéologique, c'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen mardi soir aux yeux du Rassemblement National, le fait que le gouvernement fasse inscrire dans son projet de loi une réforme de préférence nationale valide l'une de ses revendications les plus symboliques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette...
C'est totalement faux. Totalement faux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Marine Le Pen revendique un texte beaucoup plus dur que celui-là. Au Sénat, nous avons 4 sénateurs Rassemblement National. Les sénateurs Rassemblement National n'ont pas voté le texte du Sénat le mois dernier, le jugeant trop tiède, trop mou. C'est-à-dire que nous n'étions pas allés assez loin en matière de durcissement des textes. Et là, pour des raisons politiciennes uniquement, et pour essayer d'infliger une défaite à la Macronie ou donc au gouvernement, ils ont voté cette loi tout en disant que c'était une première étape. Mais cette loi, elle a été adoucie par rapport à la loi du Sénat, puisque, encore une fois, je vous l'ai dit juste avant, le principe de la commission mixte paritaire, ben, c'est de trouver un arrangement. Donc, il y a eu des ajustements qui ont été faits, des points qui étaient souhaités par le gouvernement et par les députés de la majorité présidentielle que nous avons acceptés, et des points que nous souhaitions voir inscrire dans cette loi qui ont été acceptés. Donc, c'est absolument pas une victoire idéologique.
C'est ce qu'elle dit, en tout cas.
Mais elle peut dire ce qu'elle veut, Madame Le Pen. Vous savez, ce ne sera pas la première fois qu'elle se trompe. Et encore une fois, je tiens à le dire aussi à vos auditeurs, la lutte contre l'immigration massive et clandestine et surtout irrégulière. On ne parle pas d'étrangers aujourd'hui qui sont sur notre sol et dont nous avons besoin et qui ont fait l'histoire de notre pays. Mais la lutte contre ceux qui viennent dans notre pays pour finalement faire des choses qui ne sont pas bonnes, pas bien, eh ben, ce n'est pas l'apanage du Rassemblement National. Hein. Le centre, la droite, aujourd'hui, même la gauche, hein, peuvent se prévaloir de cette attitude. Donc Marine Le Pen n'a aucune victoire. Elle a voté le texte issu de la CMP, qu'elle considérait comme beaucoup moins dur, pourtant, que le texte adopté au Sénat. C'est une stratégie, bien évidemment, mais il ne faut pas tomber dans ce piège, hein, encore une fois. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais la vérité, la voilà.
Et le peuple français, est-ce qu'il n'entend pas ce qu'elle dit, Marine Le Pen ?
Le peuple, qu'est-ce qu'il dit ? Vous savez, un sondage, on fait attention au sondage. Un sondage qui est sorti il y a très peu de temps dit que les Français, à 70%, sont contents que cette loi ait été votée. Et même à 80-90%, sur des sujets encore plus durs. Vous avez beaucoup de gens qui m'ont dit d'ailleurs, suite au vote de la loi, c'est bien, mais vous auriez pu aller plus loin. Non, on a déjà fait des choses qui nous paraissent justes. Encore une fois, on n'est pas là pour tomber dans la caricature, on est là pour voter des lois qui protègent les Français et, encore une fois, protègent notre pays. Mais on n'est pas là pour tomber dans la caricature. Donc cette loi, elle était attendue par les Français. Des gens de gauche et de droite, encore une fois. Ce ne sont pas que des gens de droite qui ont voté à 70%, ce sont des gens de gauche et de droite.
Mais honnêtement, Pierre-Antoine Lévy, est-ce que ce qui s'est passé mardi, n'est-ce pas finalement un point de bascule dans l'histoire de notre pays ?
Mais il y a certaines... D'abord, attendons aussi la validation.
On
va en parler, mais le texte a été voté. Mais attendons aussi de voir ce que va en dire le Conseil constitutionnel pour nous prononcer. Ensuite, attendons de voir les décrets circulaires d'application de cette loi pour voir s'ils sont conformes aux textes qui ont été votés. Donc vous savez, il y a encore du chemin à faire. Hein. Donc on est en train de s'affoler, on est en train de monter en épingle beaucoup de choses. J'entends ici et là des présidents de département vous allez peut-être m'en parler, qui sont en train de dire qu'ils ne respecteraient pas la loi.
On va en parler.
Attendons un petit peu déjà de voir ce que dira le Conseil.
Lorsque Emmanuel Macron, au soir de sa réélection, avait déclaré « Vous m'avez élu pour faire barrage à l'extrême droite, ce vote m'oblige », est-ce que finalement cette parole présidentielle, elle est... lettre morte désormais ?
Absolument pas. Le rôle aujourd'hui du président de la République, ce qu'il a dit, c'était de protéger contre la montée des extrêmes, de tous bords.
Mais c'est pas
le cas. Extrême gauche comme extrême droite.
Vous voyez, Pierre-Antoine Lévy, les chiffres, vous parlez de sondages. Tous les sondages mettent le Rassemblement National en tête des intentions de vote pour les prochains scrutins.
Je suis d'accord avec vous. Ce gouvernement et ce président de la République a fait monter les extrêmes. Le Front National a été créé à l'époque, il y a une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, le Rassemblement National, version Marine Le Pen, qui a essayé de se normaliser aux yeux des Français, est en train de monter peu à peu, et on voit qu'aujourd'hui, dans les intentions de vote pour les européennes, il est à plus de 30%. Mais ce n'est pas parce que nous allons voter ce genre de loi pour montrer aux Français, justement, que nous sommes capables d'apporter la sécurité sur notre pays, de donner des moyens à la justice, de donner des moyens aux policiers, aux gendarmes de se défendre, peut-être que nous arriverons à freiner cette ascension inéluctable du Rassemblement national. Donc oui, cette loi, il fallait la voter. Il fallait la voter et après, il faut voir quelle est sa mise en application et voir s'il ne faut pas la modifier plus tard.
J'entends bien, monsieur le sénateur, votre discours, mais au fond de vous, vous pensez vraiment que cette ascension vers à la fois le fauteuil de président de la République et à la fois pour les européennes, il n'est pas promis au Rassemblement national?
Vous savez, moi, je prends les choses temps par temps. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, fin 2023. Si nous devions voter pour le président de la République, aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen serait élue. À nous de mettre en place les conditions pour empêcher cette élection. Je reste persuadé que ce n'est pas inéluctable et qu'on peut arriver, droite et gauche républicaine à s'entendre, pour arriver à remonter, parce qu'aujourd'hui, il faut une gauche forte et il faut une droite forte pour arriver à freiner la montée des extrêmes de gauche et de droite. Je l'ai dit précédemment, je suis très inquiet également par la montée de l'extrême gauche. Tout comme je suis très inquiet de la montée de l'extrême droite. Donc, rien n'est inéluctable. Nous sommes en 2023, bientôt 2024. Il reste 3 ans et demi pour nous préparer. Vous savez, il y a certains commentateurs, en 2020-2021, prévoyaient la victoire de Marine Le Pen en 2022. On disait que ça serait extrêmement serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été beaucoup plus serré qu'en 2017. Enfin, Emmanuel Macron a fait 58% contre 42%. Attendons de nous voir. Près de l'élection, c'est que dans 4 ans.
Près d'un quart des députés Renaissance n'a pas voté pour le projet de loi. Certains ministres ont envisagé de démissionner. Un seul l'a fait réellement, c'est celui de la santé. La majorité, déjà toute relative à l'Assemblée nationale, est-elle rentrée dans une crise politique majeure, selon vous?
Oui, on peut dire qu'il y aura un avant et un après. C'est sûr que vous avez vu que cette constitution de la majorité présidentielle, c'est une majorité qui est constituée de gens d'un bloc de gauche et d'un bloc de droite. Vous verrez que si vous regardez l'analyse tactique fine du vote à l'Assemblée nationale, vous verrez que les députés plutôt tendance droite ont voté le texte. Et les députés plutôt tendance gauche n'ont pas voté ou se sont abstenus. Et idem sur le gouvernement. Vous avez une partie des ministres qui viennent de la gauche. L'aile gauche de la Macronie s'est ému de ce texte et a décidé de ne pas le voter. Pour l'instant, il y a eu une seule démission, la démission d'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Je n'ai pas vu d'autres ministres démissionner, hormis la ministre de l'Enseignement supérieur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, par ailleurs, qui a démissionné, dont le président a refusé la démission.
Mais au-delà, est-ce que vous pensez qu'il y a une crise au sein du gouvernement, au sein de la majorité? Est-ce qu'elle est crise passagère, selon vous? Vous êtes au cœur du...
On est au cœur des échanges. Alors, je ne fais pas partie de la majorité présidentielle, non, mais donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite crise qui s'est installée. Une crise, d'abord, qui s'est installée par le vote de cette motion de rejet, parce que si tous les députés Renaissance avaient été là le jour du vote, la motion aurait été rejetée. Ce qui veut dire que tout le monde n'était pas là. Donc déjà, c'est une première cassure dans cette majorité. Après, il est forcé de constater que c'est compliqué de travailler avec une majorité relative. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler texte par texte. Donc, qui c'est qui a le rôle aujourd'hui, finalement, de constructeur de la loi? C'est le Sénat. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que toutes les lois importantes aujourd'hui arrivent en première lecture au Sénat, où nous arrivons à dialoguer, toutes forces politiques confondues, parce qu'au Sénat, il y a toutes les forces politiques, hormis l'extrême-gauche, les insoumis qui ne sont pas représentés au sens propre du terme, quatre sénateurs Rassemblement National, mais nous arrivons à travailler très intelligemment avec les sénateurs communistes, écologistes, socialistes. Nous arrivons à trouver des terrains d'entente, des votes à l'unanimité. Mais surtout, tout le monde se respecte et tout le monde s'écoute, ce qui n'est pas le cas de l'Assemblée nationale.
Vous l'avez évoqué en filigrane, plusieurs départements de France ont annoncé leur volonté de trouver des moyens de maintenir l'allocation personnalisée d'autonomie aux étrangers. 12 départements sur 13 que comporte la région Occitanie, un seul, sauf l'Aveyron, ont prévu de maintenir, vaille que vaille, coûte que coûte, l'APA. Est-ce que vous pensez que c'est une sédition, quelque part, dans le pays?
C'est une sédition. Vous savez, les présidents de département, comme les maires, sont là pour respecter la loi. Ils sont là pour la faire appliquer. Compliqué, derrière, de dire à des administrés, à des citoyens, la loi ne me plaît pas, donc je ne vais pas la respecter. Par contre, vous devez respecter, vous, cette loi. Donc, c'est une forme de sédition. Je pense que c'est une réaction à chaud. Laissons tomber un petit peu la pression. Voyons d'abord ce qu'il y a dans le texte. Vous savez, on a raconté beaucoup d'erreurs.
Vous entendez le
Pierre-Antoine,
vous connaissez le monde de l'économie, des finances, du travail. Vous entendez le patronat qui fustige quelque part cette loi.
J'entends le patronat également qui nous dit merci d'avoir nous avoir donné quelques moyens.
Vous savez, enfin, le patronat, il joue sur plusieurs tableaux.
Il joue peut-être sur plusieurs tableaux, mais aujourd'hui, moi je suis en train de vous parler, vous m'avez posé une question,
oui,
sur l'application d'une loi votée par le Parlement, donc députés, Assemblée nationale et Sénat, qui ne serait pas respectée par des présidents de département. Je ne peux pas le croire aujourd'hui. Je pense que ce sont des paroles, peut-être sur le coup de l'émotion, sous le coup à chaud. Laissons passer encore une fois le temps. Attendons de voir la décision du Conseil constitutionnel sur ce texte. Il y aura peut-être des décisions qui seront censurées ou peut-être qui seront, on va dire, amoindries. Attendons de voir les décrets, les circulaires. Et ensuite, nous pourrons nous poser cette question de savoir si réellement la loi est appliquée ou pas par ces présidents de département.
Nous vivons dans un pays fracturé, Pierre-Antoine Lévy. Vous le savez.
Oui.
On parle du patronat, on parle des présidents de conseils départementaux, mais il y a aussi les syndicats, les responsables des principales ONG, France Terre d'Asile.
Surtout des syndicats plutôt de gauche.
Plutôt de gauche.
Plutôt de gauche. Je n'ai pas beaucoup vu de marques de désintérêt, plutôt de gens de la droite. J'ai pour l'instant des tribunes qui sont faites par des artistes plutôt de gauche, par des syndicats, la CGT. Enfin, c'est plutôt pour l'instant la gauche qui essaye de se réunir au travers de cette loi, parce qu'on a peut-être aussi une possibilité pour eux, finalement, de réunir ce qui était une fracture précédente.
Ce qu'a fait les LR
autour de cette loi, mais peut-être que la gauche va en profiter. Elle s'est fracturée, vous le savez, récemment. Peut-être qu'elle va profiter de cette loi immigration pour à nouveau se réunir.
Est-ce qu'on sait rien. Vous avez voté, en votre âme et conscience, Pierre-Antoine Lévy, ce texte, mais est-ce qu'il y a des mesures qui vous gênent, quelque part?
Oui, alors, pourquoi d'abord j'ai voté? Tout simplement parce que, quand nous trouvons un accord, le texte parfait n'existe pas, Kader. J'arrive pas en disant, moi je veux ça, c'est pas un catalogue où je fais mes courses, en disant, moi je veux telle loi,
bien
et
sûr,
on la vote.
Bien sûr.
Une commission mixte paritaire est faite de compromis. Ce qui veut dire que dans cette loi, il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent moins. Mais au final, l'intérêt général prévalant sur l'intérêt particulier, j'ai considéré qu'il y avait plus de choses qui me convenaient qui ne me convenaient pas. Celle qui me convenait le moins, c'est la caution pour les étudiants. Bon, on peut en parler quelque part, puisque c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Je fais partie de la commission culture et éducation, je suis très investi sur l'enseignement supérieur. Je sais ce qu'on demande aux étudiants français quand ils vont à l'étranger. Je le sais. Hein. On leur demande des cautions, on leur demande d'avoir un compte en banque suffisamment garni pour passer leurs études. Je n'étais pas forcément pour cette caution, d'autant que la Première ministre qui a été interrogée laisse dire que ce montant de la caution serait de 10 ou 20 euros.
Oui.
Si c'est 10 ou 20 euros, par décret, franchement, ça sera anecdotique. Mais est-ce que ça vaut le coup de laisser une caution qui va finalement coûter plus cher à mise en place et plus d'ennuis pour 10 ou 20 euros.
Ouais, c'est une mesure, en tout cas, qui a peu de chances d'être dans une... est-ce que le président a le droit de promulguer une loi en enlevant certains articles, notamment celui de la caution, par exemple? C'est une question constitutionnelle que je vous pose.
Je pense que le président peut demander, sur certains sujets, il me semble, l'article 10 de la Constitution à vérifier un deuxième vote.
D'accord.
Il me semble le demander. Ensuite, il peut ne pas sortir de décret. Il peut ne pas sortir les décrets.
Il peut ne pas promulguer la loi.
Il peut promulguer la loi et ne pas sortir tous les décrets d'application.
Voilà.
Ce qui veut dire qu'il peut très bien dire.
Ce serait une possibilité.
Il a cette possibilité. D'ailleurs, je pense qu'il l'a dit.
Oui, il l'a dit.
Alors, pourquoi elle a été votée, cette loi? Pourquoi? Parce que un sénateur, un éminent sénateur, ancien Roger Karoutchi, qui est quand même un ancien ministre et ex-premier vice-président du Sénat, a soulevé la problématique de l'immigration par les études, où vous aviez des présidents d'université qui nous ont alerté sur le fait que vous avez beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas présents en cours, qui venaient poursuivre des études mais qui n'étaient pas présents. Alors on pourrait peut-être supprimer cette caution, mais on pourrait peut-être demander une obligation d'assiduité, comme ça se fait dans d'autres pays, quand ce sont les étudiants français qui font leurs études à l'étranger.
Politiquement vote avec Pierre-Antoine Lévy, sénateur de Tarn-et-Garonne. Un mot pour conclure notre émission. Vous aviez dit, je me souviens, lorsque vous étiez venu ici au moment de votre élection en tant que sénateur, vous avez dit que vous restiez à l'écoute de ce qui se passait à Montauban, votre ville. Vous avez été longtemps premier adjoint à Brigitte Barège. Il y a ce projet qui commence à faire des vagues, la Maison du Peuple, donc, qui va être cédée à du privé. On parle de la FNAC qui va s'installer. Est-ce que vous, en responsabilité à la mairie de Montauban, vous auriez validé ce projet?
Oui, alors je peux vous donner mon avis en tant qu'ancien premier adjoint, en tant que Montalbani. Vous savez, quand nous avions la Maison du Peuple, alors, nous nous étions posé plusieurs questions. La rénovation de ce bâtiment coûte très cher. Ensuite, on peut aussi comprendre l'histoire qu'a ce bâtiment pour les Montalbanais. La Maison du Peuple a une histoire particulière pour les Montalbanais. Mais il faut aussi savoir évoluer avec son temps. Et je me dis peut-être qu'en ayant une locomotive comme la FNAC, qui va prendre le premier, le rez-de-chaussée de cette Maison du Peuple, ça peut permettre de drainer du monde en ville. Ça peut permettre également d'amener un mode de consommation pour sauver une autre enseigne historique de Montauban. Je rappelle les Galeries Lafayette qui également souffrent, on le sait, c'est pas un secret que les Galeries Lafayette souffrent de manque de clientèle. Donc peut-être que cette FNAC qui va arriver à Montauban va permettre de drainer du monde et va permettre également d'alimenter le commerce montalbanais qui a également souffert avec cette crise. On voit des magasins fermés ici et là, donc j'attends de voir.
Pierre-Antoine Lévy, Arnaud Hillon, il dit... vous organisez, il dit à Brigitte Barèche, vous organisez la vente à la découpe de la Maison du Peuple, un acte inacceptable qui vous chargera d'une responsabilité lourde dans l'histoire de notre ville. Est-ce que c'est fort ou est-ce que c'est des mots censés peser de la part d'Arnaud Hillon ?
C'est les mots d'un opposant à une majorité. Il est dans son rôle d'opposant. C'est-à-dire que peut-être que s'il était aux affaires, peut-être qu'il aurait pris une autre décision sur la Maison du Peuple. En tout cas, la décision de Brigitte Barèche et de ses équipes, c'est de faire venir la FNAC à Montauban. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait une grosse enseigne, parce que n'oubliez pas que si la FNAC veut s'installer à Montauban, c'est qu'elle croit dans le potentiel économique de Montauban et donc croit dans son évolution. Donc c'est plutôt très positif pour notre ville.
À votre place, il y a quelques jours, Brigitte Barèche avait clairement affiché sa volonté de se représenter à un nouveau mandat. Nous sommes fin 2023, un projet, ça se prépare, Pierre-Antoine Lévy. Est-ce que vous nous avez dit que vous, peut-être, vous iriez? Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Montauban?
Je vous vois venir, Kader, avec vos questions. Nous sommes à 2 ans et demi des municipales. J'ai dans 2 ans et demi, mais vous savez, je crois à montrer aux Montalbanais, au Tarn-et-Garonnais, parce que ma ville de cœur, c'est Montauban, mais je me consacre à 100% depuis 3 ans maintenant, depuis 2020, au Tarn-et-Garonne pour défendre les intérêts de ce magnifique département. Je suis concentré à 1000% sur ma mission de sénateur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, rien d'autre ne m'intéresse. Et je répondrai pas différemment. C'est pas la langue de bois.
Est-ce que dans un coin de votre tête, vous y pensez?
Absolument pas. Dans l'immédiat, je ne pense qu'à mon mandat de sénateur.
Et le fait que Brigitte Barèche souhaite se représenter, se représentera, est-ce que ça, c'est...
C'est à elle de le dire. Il me semble qu'il y a quelques mois de ça, elle a annoncé qu'elle comptait se représenter. Moi, je pense qu'il faut attendre une annonce officielle, puisque vous avez une annonce 3 ans avant, on peut dire ce qu'on veut.
Elle l'a dit,
elle va être soumise à nouveau au vote des Montalbanais. Oui. Vous savez, j'étais son premier adjoint durant 12 ans, je suis parti pour des raisons que vous connaissez, j'ai beaucoup travaillé à ses côtés, j'ai beaucoup appris, et aujourd'hui, ce travail que j'ai fait m'a permis d'être élu sénateur.
Vous pourriez retravailler avec elle, par exemple?
Mais moi, vous savez...
Si elle se représente, si elle est élue, est-ce que vous pourriez revenir dans son équipe?
Mais moi, aujourd'hui, vous savez, je suis capable de travailler avec tout le monde. Oui. C'est-à-dire que je peux travailler avec Brigitte Barèche, j'ai travaillé avec elle pendant 12 ans, et pour l'intérêt général, je suis capable de travailler avec elle. J'ai travaillé également avec tous les maires de ce département, quelle que soit
leur sensibilité politique. Pour l'intérêt général, Pierre-Antoine Lévy, est-ce que vous pourriez être dans le fauteuil de maire?
Mais je ne sais pas, nous ne pouvons pas en parler maintenant. Non. Encore une fois, on ne peut pas cumuler... Je suis sénateur du Tarn-et-Garonne, et donc je compte bien rester sénateur du Tarn-et-Garonne si les grands électeurs du Tarn-et-Garonne me font l'honneur de me laisser les représenter, encore une fois.
Donc vous viendrez nous le dire si vous avez pris une décision.
Bien sûr, vous savez qu'on se voit assez souvent, Kader. Bon, ok. Donc je vous le dirai.
Bon, merci en tout cas Pierre-Antoine
Lévy. Avec grand plaisir.
D'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Je vous souhaite à vous, Pierre-Antoine Lévy, et à tous nos auditeurs d'excellentes fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup et une excellente fête de Noël à vos auditeurs, à vous-même. Et une belle santé, une bonne santé, parce que nous avons vécu une année 2023 particulièrement difficile à différents domaines. Je forme le vœu que 2024 soit plus sereine. Je l'espère en tout cas.
Merci beaucoup.